Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Voici USTL Info. Avec notre invité aujourd'hui, François Bulbaudin, vice-président de l'USTL, chargé du patrimoine. Bonjour.
Bonjour.
Donc le patrimoine de l'Université de Lille, ça fait rêver quand on dit patrimoine. Ça veut dire que l'université est riche ou elle est riche d'un ensemble de biens. Ça fait quand même...
Ah, ça fait rêver le mot patrimoine, mais là, en l'occurrence, ça n'est que le patrimoine immobilier. Mmh. Et on peut être riche quand on a un patrimoine ancien dans des lieux privilégiés. Malheureusement, Villeneuve-d'Ascq, le patrimoine est ancien, mais le lieu n'est pas obligatoirement privilégié en termes de valeur immobilière.
Alors, est-ce qu'on peut dire que selon les universités, il y a des universités qui ont un patrimoine riche et d'autres qui ont un patrimoine moins riche ?
On peut le dire d'une certaine façon. Il y a des universités anciennes. L'université de Lille est ancienne, mais l'implantation de Villeneuve-d'Ascq est récente. Nous avons dans notre patrimoine universitaire des choses anciennes situées sur l'île. Nous avons des choses anciennes, issues de vieilles donations industrielles, comme par exemple la station marine de Vimereux. Mais l'essentiel du patrimoine immobilier de l'université se trouve à Villeneuve-d'Ascq. C'est un patrimoine qui a été... des immeubles construits entre la fin des années 60 et la fin des années 70, donc 30 à 40 ans d'âge. Constructions qui ont été... Certaines ont été réalisées quelques années après. Paradoxalement, les plus anciennes sont souvent celles de meilleure qualité. Mmh. Et tout ça fait quand même aux alentours de 250 000 m² de plancher sur une centaine d'hectares. On est quasiment, on peut le dire, le plus gros campus de France, cas le plus gros campus occupé par une seule université.
Mmh. Alors, ce patrimoine, on a bien compris, dans le temps il évolue, parfois il se dégrade. Bon, il y a des constructions récentes qu'on peut observer actuellement. Tout cela, qui paye finalement ?
Alors, qui paye ? Nous avons en ce moment un certain nombre de mouvements de contestation à propos de l'autonomie des universités. Pour l'instant, celui qui, pendant longtemps, a été le seul financeur, c'était l'État. Et depuis quelques années, les collectivités, en particulier les régions, ont pris le relais pour nous financer, mais pour nous financer dans des opérations de projet. C'est-à-dire que le courant... L'ordinaire est financé par l'État. Par contre, quand nous avons des projets particuliers, en termes de recherche, mais également en termes d'enseignement, les régions viennent nous accompagner dans un mécanisme un peu compliqué qui s'appelle les contrats de projet État-région aujourd'hui, les contrats de plan État-région auparavant, qui ont financé quand même, on peut le dire, depuis une dizaine d'années, souvent à plus de 50% nos constructions et les rénovations de nos bâtiments existants.
Mmh. Alors, si j'ai bien compris un peu la contestation, moi qui ne suis plus étudiant ni enseignant, il y a quand même le risque que le patrimoine soit confié au secteur privé, voire même financé par le privé pour les nouvelles installations ?
Alors le risque pour la gestion, je ne vous cacherai pas qu'on reçoit en ce moment des propositions de sociétés qui nous proposent leurs services pour optimiser la gestion de notre patrimoine. Dans notre université, nous avons la chance d'avoir des services relativement bien étoffés, avec des gens ayant un bon niveau professionnel, ce qui nous permet de, aujourd'hui et demain, même si nous passons dans un degré d'autonomie plus fort, nous donnera la possibilité de continuer à gérer le patrimoine. Donc ça, c'est une première chose importante. La gestion, ça demande des hommes, ça demande des spécialistes, des techniciens, des ingénieurs. Nous les avons. Mmh. Et donc, nous réussissons à faire un travail qui est quand même un travail difficile. D'autre part, il y a le problème des constructions neuves ou, disons, des rénovations lourdes des bâtiments anciens, pour lesquels il est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons commencer à nous poser des questions. Je ferai une différence entre les bâtiments d'enseignement et les bâtiments de recherche. Les bâtiments d'enseignement, je dirais qu'ils resteront toujours financés par soit l'État, soit peut-être plus tard, je n'en sais rien, les collectivités territoriales, les régions. Les régions ont bien pris les lycées quand l'État leur a abandonné il y a quelques années. Les conseils généraux ont bien pris les collèges. mon Dieu, pourquoi les régions dans quelques années ne prendraient pas les bâtiments d'enseignement.
Je pense que effectivement, pourquoi ou pourquoi pas, mais le risque c'est que des régions plus ou moins riches et des universités aussi plus ou moins intéressantes, non?
C'est vrai que on ne peut pas nier que le rôle principal de l'État, ça a toujours été un rôle d'équilibre, régulateur, à savoir que l'on soit au nord ou au sud de la France, dans une région rurale ou industrielle, d'industrie moderne ou d'industrie passée, on était tous servis à la même soupe, de moins en moins grasse, la soupe, hein, c'est vrai. Si vous voulez, aujourd'hui, pour parler simplement, un mètre carré, qu'il soit d'enseignement ou de recherche, nous rapporte chaque année quelques euros pour qu'on puisse entretenir et rénover nos bâtiments.
Mmh. Alors, si je prends le domaine universitaire de la cité scientifique, hein, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles constructions, mais qui ne sont pas forcément de l'université. Il y a des gens privés qui s'installent dedans ou à l'extérieur.
Alors c'est plus compliqué. C'est ouais. Parce que, si vous voulez, c'est vrai que le campus, à l'origine, était un territoire relativement vaste qui, honnêtement, on ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas trop à qui il appartenait. Mm-hmm. Je peux en donner pour exemple qu'aujourd'hui encore, l'État nous demandant de faire une étude approfondie sur quelle parcelle appartient à qui, nous avons quelqu'un chez nous qui, depuis un an et demi, travaille pour reconstituer véritablement le plan cadastral, les propriétés, quelle parcelle est à qui. Mmh. Et c'est un véritable bazar. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de parcelles qui appartiennent à l'État, mais pas obligatoirement au ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons des parcelles qui appartiennent à la communauté urbaine, et nous avons des parcelles qui, au cours de l'histoire du site, ont été rétrocédées au privé, pour certaines d'entre eux, à la ville de Villeneuve-d'Ascq. Donc, en fait, la situation est très complexe. On peut dire, en gros, le cœur du campus, l'intérieur de ce boulevard circulaire qui est le boulevard Langevin, est entièrement domaine de l'État. Le boulevard Langevin est du domaine communautaire avec les parkings qui sont autour, c'est-à-dire appartient à la communauté urbaine de Lille. Et à l'extérieur de cet anneau Langevin, c'est très compliqué et c'est très variable suivant les cas.
Alors justement, l'intérieur, donc le cœur dont vous venez de parler, est-ce qu'il est encore possible d'y installer de nouveaux bâtiments ou est-ce qu'on a fait finalement le tour des possibilités et qu'il faut quand même un minimum d'espace vert ou de parking dans une vie quelle qu'elle soit?
On en a fait le tour. Hein. Je veux dire, clairement, aujourd'hui, le site de la cité scientifique est quasiment saturé. Il reste encore de l'espace, mais c'est de l'espace vert et de l'espace que nous avons la volonté de conserver comme espace vert et naturel. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous avons de la place à l'intérieur de l'anneau, mais cette place, nous ne voulons pas la rendre constructive. À l'extérieur de l'anneau, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous avons des bâtiments qui ont été fermés. Je pense à l'ancien IUT, par exemple. L'ancien IUT a été remplacé par de nouveaux bâtiments. Les anciens bâtiments doivent être démolis. Malheureusement pour nous, c'est de la construction qu'on appelait Pailleron, qui est donc contient une structure métallique avec amiante. La destruction coûte très cher et nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à rassembler, malgré les promesses des collectivités et de l'État, l'argent. Nous n'avons pas encore l'argent dans les caisses pour pouvoir entreprendre cette démolition. Donc libérer des terrains, donc pouvoir gagner de l'espace pour peut-être agrandir une résidence universitaire, peut-être construire un restaurant universitaire, peut-être agrandir l'IUT. Nous avons des projets. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que libérer un terrain coûte presque aussi cher que d'aller acheter un terrain vierge. On est dans des situations où le prix du foncier... on pourrait croire qu'on est aux franges de la ville et donc que le foncier ne vaut pas cher, mais ce foncier étant déjà construit, il faut le démolir, il faut le nettoyer pour permettre de nouvelles constructions. Tout ceci est fort onéreux. Pour vous donner un chiffre, démolir les anciens bâtiments de l'IUT, c'est une plaisanterie qui s'élève à 2,5 millions d'euros, avant même de pouvoir faire quelque chose d'autre.
Alors, ce problème de l'amiante, vous en avez un peu parlé, on le retrouve dans d'autres universités de France et même parisiennes.
Oui, tout à fait. Bon, on a tous présents à l'esprit Paris 6, le campus de Jussieu. J'ai moi-même fait mes études, j'ai fait ma thèse à Jussieu, à une époque où on parlait déjà, pour la petite histoire, c'était dans les époques 77-80. À l'époque, on avait déjà un comité amiante à Jussieu. Mmh. Et vous voyez combien d'années il aura fallu pour qu'enfin, on commence à faire quelque chose à Jussieu. Le problème de l'amiante est un problème grave. Il n'a pas mis en danger. Il faut quand même le relativiser par rapport à des bâtiments comme les anciens bâtiments de l'IUT. Il n'a pas mis en danger la vie des utilisateurs des anciens bâtiments de l'IUT pendant les 30 années de service de ces bâtiments. Mmh. Des études ont été faites. Le véritable danger que présentent ces bâtiments maintenant, c'est pour la démolition et le traitement ensuite des déchets, des gravats de démolition qui grève considérablement le coût de cette démolition.
Alors récemment, on a vu, bon, il y a quelque temps, l'espace culture qui s'est installé dans des locaux, je veux dire, qui datent de 5 ou 6 ans peut-être maintenant. Là, il y a la maison des étudiants qui n'a pas encore ouvert ses portes, mais qui est construite.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres chantiers également en cours ?
Alors on a un chantier qui devrait aboutir prochainement, qui est ce qu'on appelle le centre de ressources pédagogiques multimédia, qui devrait voir le jour, si vous voulez, pas très loin d'ici, puisque ça serait derrière entre les bâtiments qu'on appelle bâtiments du CRI, hein, c'est-à-dire le centre de ressources informatiques, et le laboratoire de mécanique de Lille. Là, on a un petit projet d'un bâtiment de quelques centaines de mètres carrés qui serait là pour faire de la production multimédia en vue de faire évidemment de la production d'outils pédagogiques. Mais pour vous donner là aussi un exemple, il est de plus en plus difficile de faire construire des bâtiments, tout simplement parce que le marché du bâtiment est saturé, on a du mal à trouver des entreprises, les prix glissent énormément. Les prix dérapent. Nos procédures, qui sont des procédures qu'on appelle de marché public, sont extrêmement lourdes, extrêmement complexes. Et donc, on a de plus en plus de mal à construire. On n'arrive pas à tenir les prix. On tient mal les délais et on n'est pas content du résultat. Mmh. Donc, je dirais que quelque part, le travail ne va pas en se facilitant. Et en même temps, nous devons quand même continuer à construire.
Alors, on n'a pas encore parlé des résidences universitaires. Elles appartiennent à qui et comment se fait soit le développement, soit l'entretien de ces locaux, ces
bâtiments ? Alors, les résidences universitaires appartiennent au CROUS, donc le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. Le CROUS est donc, pour parler simple, propriétaire des terrains sur lesquels sont construites ces résidences. Et le CROUS, donc, en est le gestionnaire. Mais le CROUS est en dialogue permanent avec nous et le CROUS a manifesté depuis un certain temps le besoin de construire de nouvelles résidences. Mmh. D'ailleurs, je vous conseille un de ces jours d'inviter au moins le directeur adjoint du CROUS qui nous a présenté dernièrement un dossier extrêmement intéressant. Il y a une volonté du CROUS de construire, pour des raisons évidentes, hein, on manque de résidences dans la région Nord-Pas-de-Calais, on manque particulièrement de résidences sur l'agglomération lilloise, et il y a donc volonté de la part du CROUS, en réunissant des financements qui ne sont pas de même nature que les nôtres, de construire au moins une résidence supplémentaire, de mettre aux normes les résidences actuelles, et d'autre part, de multiplier, on va dire, peut-être au moins de 30, augmenter de 30 à 40% la capacité d'accueil.
Voilà, Monsieur François Bonin, vous avez donc fait un tableau de l'ensemble de ce territoire et de cette propriété de l'USTL, donc ce patrimoine. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants à annoncer au personnel ou aux étudiants ou aux utilisateurs de ces espaces ?
Bah, écoutez, je suis vice-président à la fois patrimoine, mais également développement durable. Je pense que dans les années à venir, de toute façon, nous allons arriver dans des périodes de fin de vie d'un certain nombre de nos bâtiments d'origine. C'est-à-dire qu'on va arriver aux 50 ans de certains bâtiments. Même si, d'un point de vue structure, ils sont encore en bon état, clairement, ils ne sont plus fonctionnels. Donc on va, je pense, arriver d'ici quelques temps à la question qui va être: que doit-on démolir, Que doit-on reconstruire? Doit-on le reconstruire sur place? Donc densité du domaine universitaire. Également, ne pas oublier la présence de la haute borne qui se développe à côté du campus, de la cité scientifique. Haute borne dans laquelle un certain nombre de laboratoires de recherche sont en train de s'implanter. Et je pense que l'avenir du campus va passer d'abord par un lien physique fort entre la cité scientifique et la haute borne, qui sera à la fois un lieu de recherche, également un lieu de développement technologique. Donc un lien physique sur lequel nous travaillons avec la communauté urbaine en ce moment. D'autre part, développement durable oblige, je dirais, il faudra bien qu'un jour ou l'autre on se pose la question des circulations douces à l'intérieur du campus. Favoriser les circulations douces, les liens aussi bien piétons que cyclables avec la ville de Villeneuve-d'Ascq. Nous voulons être ouverts vers la ville et aujourd'hui nous voyons que nous avons des barrières physiques. Donc voilà un grand projet. Les transports en commun, bon, le métro qui n'est pas assez utilisé pour venir se rendre sur le campus.
Peut-être trop cher, non, pour les étudiants?
Peut-être trop cher, peut-être aussi parce que nous avons quelque part la chance et la malchance d'être au bout de la ligne. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont du bon côté de la ligne, mais il y en a aussi beaucoup qui sont de l'autre côté. D'accord. Et donc là, pour eux, les transports en commun sont quand même moins pratiques. Et puis également, je dirais, un autre grand chantier, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est ce qui pourrait arriver, les scénarios auxquels il faut qu'on commence à réfléchir par rapport au grand stade. Mmh. Ce grand stade qui, n'oublions pas, va se construire en principe à vol d'oiseau de la cité scientifique, avec des interférences sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Et d'ailleurs, si je vais vous quitter rapidement, c'est pour aller à la mairie de Villeneuve-d'Ascq, pour discuter avec la mairie de Villeneuve-d'Ascq et la communauté urbaine de Lille, justement sur comment ce grand équipement, ce grand stade pourrait trouver sa place en symbiose avec, d'une part, la ville de Villeneuve-d'Ascq, la zone commerciale de V2 et également la cité scientifique. Vous voyez, trois lieux bien différents, des lieux d'habitation, des lieux de commerce et des lieux qui sont un petit peu d'habitation. 4000 étudiants résident ici, un petit peu des lieux, évidemment, de travail et puis aussi des lieux de formation, des lieux de recherche, des lieux de rayonnement, des lieux de développement économique. Et tout ça, nous en discutons en ce moment avec la communauté urbaine, des discussions où, vous l'avez peut-être vu, nous avons tenu des conférences de presse, nous affirmons une position qui est quand même relativement claire. Non, la cité scientifique n'est pas un quartier comme un autre.
Mais n'hésitez pas à venir nous retrouver pour présenter donc cet aspect donc, du grand stade dès que vous aurez les éléments nécessaires.
Écoutez, ça évolue relativement vite en ce moment. Je risque de revenir assez rapidement.
Merci, monsieur François Bouillebaudin.